Dieu nous a donné des fêtes merveilleuses, remplies de signification, ces jours saints. Lorsque nous observons ces fêtes, nous nous concentrons sur la signification, sur ce que ça veut dire. Comparez ça aux fêtes du monde. Par exemple, la fête de Noël avec les arbres de Noël, toutes les décorations, le frénétisme du magasinage et ainsi de suite. Pensez au Pâques avec les habits spéciaux, les chocolats de Pâques, les lapins en chocolat, les œufs de Pâques et ainsi de suite. Ça semble être ce sur quoi les gens se concentrent dans ces fêtes-là. Sans parler de Halloween et de d'autres fêtes semblables. Mais lorsqu'on célèbre les fêtes de Dieu, on comprend la signification qui va avec chacun de ces jours-là. Dieu nous donne des indications dans sa parole et parfois des déclarations très directes concernant la signification de chacun de ces jours saints. 1 Corinthiens, chapitre 5, par exemple, au verset 7, il nous dit que le Christ est notre Pâque et qu'il a été sacrifié pour nous. Alors, il n'y a aucun doute concernant la signification de la Pâque. Le verset suivant nous dit que la fête des pains sans levain représente le fait de sortir le mal de nos vies, qui est représenté par le levain, qu'on sort de nos maisons, et qu'il nous faut revêtir la pureté et la vérité, les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alors, on voit à travers ces déclarations-là la signification de ces fêtes. Et Paul leur dit au début du verset 8, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » À la Pentecôte, Dieu a répandu son esprit sur l'Église du Nouveau Testament. Et lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, nous voyons que la Pentecôte du Nouveau Testament représente le temps où il a donné son esprit aux êtres humains pour être capable de vivre ses lois. C'est différent. Dieu avait écrit ses lois sur la pierre dans l'Ancien Testament. Dans Zacharie 14, on voit une ouverture sur le millénium et Dieu dit que les nations vont devoir monter à Jérusalem pour observer la fête, vont devoir envoyer des représentants pour célébrer la fête. Aujourd'hui, nous sommes le septième jour de la fête. Le septième jour, et ça représente la fin du millénaire. Dans Zacharie 14, on voit la description des gens qui vont monter à Jérusalem pour observer la fête. Alors, cette fête des tabernacles est associé avec le millénium. Mais en ce septième jour de la fête des tabernacles, il nous faut nous demander pourquoi Dieu nous donne-t-il une fête de sept jours, la fête des tabernacles? Pour quelle raison? Nous savons que pour la fête des pains sans levain, ça a pris sept jours à la nation d'Israël pour sortir d'Égypte. Alors, on voit encore à la fête des tabernacles qu'il y a encore un sept jours de fête. Je ne pourrais pas vous donner la réponse complète à cela aujourd'hui, mais je peux vous donner quelques informations très pertinentes concernant ce septième jour que nous célébrons aujourd'hui. C'est merveilleux que Dieu nous ait donné un sermon qui a été donné en ce septième jour dans le passé, septième jour de la fête des tabernacles. Alors que nous réfléchissons à ce septième jour que nous célébrons, il y a de grandes leçons pour nous à en tirer. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Il y a un sermon qui a été donné en ce même jour que nous célébrons aujourd'hui, et nous allons voir quelles leçons nous pouvons en tirer, ce que nous pouvons en apprendre. La période qui a suivi la captivité, lorsque les Juifs sont revenus de captivité, autour de l'année 539-538 avant Jésus-Christ, on voit que Cyrus a émis un décret. Allons dans le livre d'Esdras. Les Juifs étaient à Babylone en captivité et on estime qu'il y avait peut-être 2 millions de Juifs à Babylone à ce moment-là. C'est intéressant de voir que le livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 36, fini avec ce qui est en fait le début du livre d'Esdras. Alors, Esdras 1, verset 1, « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Alors, c'est ici qu'on voit les derniers mots du livre précédent, verset 2. « Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. » Des 2 millions de Juifs qui étaient là, simplement un petit groupe sont retournés à Jérusalem pour bâtir le temple. Quelques milliers, probablement. La leçon que nous apprenons ici, en regardant ces passages, c'est que Cyrus reconnaissait qu'il fallait qu'il y ait un effort d'équipe pour reconstruire le temple. Verset 4. « Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. » Alors, même ceux qui sont restés derrière de la nation d'Israël, des Juifs aussi, ont donné de leurs richesses et de leurs biens pour supporter ceux qui allaient à Jérusalem pour bâtir le temple. Nous voyons que toute la nation de Juda a été impliquée en cela. Ils avaient l'occasion de faire partie de la construction du temple, même ceux qui ne retournaient pas physiquement à Jérusalem. Si vous allez à Esdras, chapitre 3 maintenant, Esdras, chapitre 3 et le verset 8, ça dit ceci, « La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. » Alors, ils ont commencé le travail à ce moment précis, le deuxième mois de la deuxième année. Allons maintenant au verset 10 du même chapitre. « Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. » Alors, ils ont mis le fondement de la bâtisse du temple et ils ont célébré parce que c'était de bons débuts. Ils étaient contents, ils étaient heureux. Mais au chapitre 4, nous voyons que parce qu'ils avaient célébré l'établissement des fondations du temple, que cette réalité était parvenue aux oreilles des habitants du pays, ceux qui avaient été connus par la suite sous le nom de Samaritains au temps de Jésus. Ils avaient été amenés, ces gens-là, auparavant de Babylone, et ils avaient emmené avec eux leur fausse religion. En plus, ils avaient amené avec eux un Lévite pour les aider à comprendre un peu le Dieu du pays. Alors, c'était un mélange de vérité et d'erreur. Il y avait un petit peu de vérité, mais il y avait beaucoup d'erreur. Alors, ces gens-là étaient là. Ils ont offert leur aide aux Juifs pour reconstruire le temple. Mais le verset 3, regardez, « Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors, c'était une rebuffade pour ces gens-là qui offraient leur aide. Ils ont réalisé, les Juifs ont réalisé que s'ils permettaient à ces gens-là de les aider de bâtir le temple, alors qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, ils allaient, pour ainsi dire, les englober totalement par après, et ça allait être leur temple, aussi bien que le temple des Juifs. Ils auraient de moins en moins leur place. Alors, ils ont réalisé que ce n'était pas une bonne idée. Ils ont refusé leur offre, et le résultat, on voit au verset 4, « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers. » Des avocats, si vous voulez. et il gagna à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Alors, pour une période d'environ 15 à 16 années, nous voyons que la construction du temple a été suspendue. Les Juifs étaient découragés. Ils se sont permis d'arrêter la construction. Ils n'ont pas repris la construction avant le règne du roi suivant. On peut voir les versets 6 à 24. On voit qu'il y a eu des persécutions qui se sont ajoutées contre les Juifs. Alors, le contexte, vous pourrez prendre le temps de le lire, c'est historique, c'est un contexte historique. Du verset 5 au verset 24, on voit que ça a été arrêté jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Alors, on parle de l'an 520 avant Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui s'est passé qui les a empêchés de construire, de continuer de construire. Nous voyons de quoi il s'agissait lorsqu'on regarde le chapitre 5, verset 1. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors, nous arrivons ici à une situation où Agé et Zacharie sont impliqués. Beaucoup de gens, et même des membres de l'Église, ne réalisent pas que les livres d'Agé et de Zacharie vont ensemble. Ça situe la situation vers les années 520 avant Jésus-Christ, 15-16 années après le retour des Juifs pour bâtir le temple à Jérusalem, et le travail de bâtir le temple, ce pourquoi ils étaient revenus, avait cessé. Et maintenant, Agé, le prophète, se lève, et Zacharie aussi, et il pousse les gens à construire. Allons au livre de Agé, à la fin des prophètes mineurs. Alors, Agé, le livre d'Agé. Nous allons aller au chapitre 1er et nous allons commencer au verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur. On voit que c'est la seconde année, le premier jour du sixième mois. Alors, ça correspond au livre d'Esdras, le chapitre 5, verset 1. Voici le message. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Alors, c'était leur attitude. Les gens étaient découragés et ils se disaient, non, ce n'est pas le temps vraiment de bâtir le temple. Pour beaucoup de raisons peut-être, mais surtout pour le découragement, mais aussi la nature humaine jouait un rôle là-dedans, comme nous le verrons. Il se disait, peut-être ce sera plus tard que ça viendra le temps de bâtir la maison de Dieu, mais ce n'est pas maintenant. Verset 3, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison, mon temple, est détruite? Ainsi par l'Éternel, des armées, considérez attentivement vos voix. Autrement dit, Dieu leur dit, réfléchissez à ce qui se produit. Parfois, on est tellement absorbé par les choses que nous faisons que nous ne prenons pas le temps de méditer comme il faut et réfléchir à ce qui se passe autour de nous. Dieu, par Agé ici, a dit aux gens, arrêtez, pensez, réfléchissez à ce qui se passe et à ce que vous faites. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Autrement dit, examinez vos voies. Verset 6, vous semez beaucoup, vous avez fait des efforts et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous pouvez imaginer ce que ça peut être. Vous essayez de remplir un sac avec de l'argent au fond duquel il y a des trous et ça passe tout droit. Peut-être pas la somme complète, mais une grande partie de la somme passe tout droit. Verset 7, « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, examinez ce que vous faites et examinez les conséquences, les fruits de ce que vous faites. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Verset 9, « Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. La raison, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Ma maison est en ruine, mais vous, vous vous occupez du numéro un, comme on dit souvent. Numéro uno, c'est Dieu. Le numéro un, ça doit être Dieu. Mais dans ce monde, numéro un, il est ici, c'est nous-mêmes. On est tous pareils. Et ces gens-là s'occupaient davantage d'eux-mêmes et ils ne faisaient pas l'œuvre de Dieu. Ils avaient été envoyés là pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu avait prophétisé que son temple allait être rebâti. Dieu avait annoncé ces choses-là et c'était son plan. Dieu avait dit qu'il y aurait 70 ans qui se passeraient à partir du début de la captivité. Écoutez, Dieu avait éveillé le cœur de Cyrus pour que ces Juifs-là puissent retourner à Jérusalem pour bâtir le temple de Dieu, et ils ne le faisaient pas. Verset 10, « C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. » Zorobabel, verset 12, et Josué et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, et ils ont porté attention, ils ont obéi. On voit qu'ils ont réagi positivement ici. Ils ont porté attention à ce que disaient les prophètes. Dieu l'avait envoyé, et les gens ont été saisis de crainte devant l'Éternel. Verset 13, « Âgé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. » Encore une fois, ça met l'emphase sur le fait que Âgé était le messager de Dieu. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait inventé, c'est quelque chose que Dieu lui avait donné de dire à son peuple. Alors, il a enthousiasmé les gens de se remettre au travail. Verset 14, « L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Quand ont-ils commencé cette œuvre? À nouveau, le fondement avait été établi, et après une quinzaine d'années, peut-être qu'une partie de ces fondations avait été endommagée ou détruite, c'était en ruine. S'il y avait seulement les fondations, il n'y avait rien d'autre qui avait été ajouté dessus. Verset 15, c'était le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Le 24e jour, c'est à une semaine de la fête des trompettes. Et nous savons que lorsque la fête des trompettes arrive, tout de suite après, il y a la fête des expiations et après la fête des tabernacles. Alors, ils se sont remis à travailler en ce 24e jour du 6e mois. En fait, une semaine avant la saison des fêtes de l'automne. Et au chapitre 2, verset 1, il est dit, « Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète. » Quel est ce 21e jour du 7e mois? Rappelez-vous que le premier jour du 7e mois, c'est la fête des trompettes. Le 10e jour, c'est le jour des expiations, alors que nous jeûnons. Le 15e jour du 7e mois, vous pouvez voir dans Lévitique 23, c'est là que commence la fête des tabernacles. Alors, nous avons le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21. 7 jours. Alors, nous sommes ici au 7e jour de la fête des tabernacles. C'est le même jour que nous célébrons aujourd'hui. Alors, ici, dans Agé 2, verset 1, nous avons la description d'un message qui fut adressé par Dieu à son peuple en ce même jour. Verset 2, parle à Zorobabel et à Josué et au reste du peuple et dis-leur, « Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, dit l'Éternel. » C'est le message de Dieu par Agé en ce même jour que nous célébrons, le dernier jour de la fête des tabernacles. Rappelez-vous que demain, c'est une fête totalement différente des 7 jours de la fête des tabernacles. On l'appelle le dernier grand jour. Et il a une signification tout à fait différente. Ce dernier grand jour a une signification tout à fait différente des jours de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles représente le millénaire qui vient bientôt. Et le message ici, regardez le verset 4, « Fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué, fortifie-toi, peuple entier du pays, et travaillez, regardez le message, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, je suis avec vous, et je veux que vous travailliez, je vous commande de travailler. » Examinons, réfléchissons, pourquoi ce message particulier en ce jour particulier d'aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons possibles. L'une d'elles, c'est qu'ils ont commencé le travail le 24e jour du 6e mois. Et après, vous avez eu la fête des trompettes et le jour des expiations. Après ça, les 7 jours de la fête des tabernacles et ensuite le dernier grand jour. Et après, Dieu ne voulait pas que les gens oublient. Dieu ne voulait pas que les gens oublient. Il célébrait les fêtes à ce moment-là aussi. Et Dieu voulait qu'ils n'abandonnent pas le travail, mais qu'ils continuent, qu'ils se mettent à la tâche immédiatement après les fêtes. Est-ce que c'est possible aussi que Dieu ait eu un message plus énorme, plus large pour nous à notre époque? Projetons-nous à la fin du millénium. Vers la fin du millénium, est-ce qu'il y aura une œuvre à faire, à accomplir, une œuvre de Dieu à réaliser? Après le millénium, il y aura le jugement du grand trône blanc. Et des millions de gens, des milliards de gens seront ramenés à la vie, à une résurrection physique à ce moment-là. On ne sait pas si Dieu le fera tout d'un coup ou par étapes, mais nous savons que plusieurs millions de l'humanité qui se sont endormis sans connaître Dieu, sans avoir été appelés, vont être ramenés à la vie. À ce temps particulier, ils vont être ramenés à la vie et ils auront besoin de certaines choses à ce moment-là. Dieu pourrait, de façon surnaturelle, pas de façon magique, ce mot-là n'est pas exact, mais Dieu pourrait, de façon surnaturelle, régler tous les besoins de ces gens-là. Dieu aurait pu créer une arche pour Noé et sa famille. Dieu aurait pu enlever les gens de l'Égypte et les transporter miraculeusement en terre promise. Non, ce n'est pas de cette façon-là que Dieu travaille. Alors, il n'est pas déraisonnable de croire que Dieu va vouloir que nous préparions ce temps spécial à la fin du millénaire, que nous préparions les choses pour tous ces gens-là qui vont être amenés à la vie lors du dernier grand jour. Est-ce possible que les gens, à la fin du millénium, vont être portés à se tourner vers eux-mêmes plutôt que de penser à tout ce travail qu'il y aura à faire de bâtir des maisons pour les gens qui vont être ressuscités peu de temps après, mais qu'ils ne connaissent pas du tout. Nous, actuellement, nous avons des amis, des parents, Et vous savez, en tant qu'être spirituel, à ce moment-là, nous allons être tellement remplis d'enthousiasme en attendant ce moment où Dieu, lors du jugement du grand trône blanc, va ramener à la vie notre mère, notre père, nos grands-parents, des frères, des sœurs qui sont décédés, ceux qui étaient nos amis et qui sont décédés, nos voisins que nous aimions et qui sont décédés. Et nous allons, à ce moment-là, être débordants de joie avant de les rencontrer, pour les rencontrer et leur expliquer le plan de Dieu. Et ils vont être enthousiasmés lorsqu'ils entendront parler du plan de Dieu, alors que Satan ne sera plus là. Je ne veux pas entrer dans la signification du dernier grand jour ici au complet, mais je veux tout au moins vous dire que nous allons avoir cette joie-là et ces attentes-là en nous, mais à la fin du millénium, les gens qui seront des êtres humains physiques à ce moment-là, ils n'attendront pas la résurrection de leurs parents, si vous voulez, ou de gens qu'ils connaissent. Ils n'auront pas beaucoup d'intérêt pour leurs ancêtres d'il y a mille quelques années. Voyez-vous, ça peut être différent dans leur cas. Même chose pour vous. Est-ce que vous avez un attachement particulier pour vos ancêtres qui ont vécu il y a mille ans? Vous ne les avez pas connus. Voyez-vous, peut-être que vous pensez qu'à la fin du millénium, ces gens-là qui vont être là vont être excités par la grande résurrection qui va s'en venir après. Mais la logique n'est pas toujours la réponse. Examinons la situation actuelle. Nous approchons actuellement le retour de Jésus-Christ sur la terre. Nous voyons les tremblements de terre, nous voyons les éruptions volcaniques majeures, nous voyons l'Europe s'unir davantage. Et nous voyons les prophéties se réaliser un peu partout à travers le monde. Nous voyons les crises financières se multiplier. Nous voyons approcher le royaume de Dieu. Ne pensez-vous pas qu'on devrait être enthousiasmé de voir ça arriver, de voir le retour du Christ approcher? J'espère que c'est votre cas et que c'est mon cas. J'espère que nous ne nous racontons pas d'histoire et que nous ne nous faisons pas d'illusions. Dieu dit que la septième ère de l'Église, la dernière ère de l'Église, plutôt que d'être excité, enthousiasmé par l'œuvre, ce sont des gens qui sont complaisants, faisant des compromis, pas tellement soucieux de l'œuvre, satisfaits d'eux-mêmes, tournés vers eux-mêmes, prenant soin d'eux-mêmes. Est-ce que c'est possible que ce soit une attitude semblable qu'on voit à la fin du millénaire? Écoutez, je ne veux pas dire absolument pas que que les sept églises mentionnées dans Apocalypse sont les sept millénaires. Certaines personnes ont pensé ça. Non, c'est pas du tout ça. Ça ne s'applique pas à ça, absolument pas. On ne doit pas aller de ce côté-là comme pensée ou comme explication. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attitude juste avant le retour de Christ, l'époque où nous vivons maintenant, on trouve peut-être une attitude d'esprit un peu pareille comme celle qu'on trouvera à la fin du millénium. Alors que les gens auront connu la vérité depuis longtemps, et on sait qu'à la fin du millénaire, Satan sera délié pour un peu de temps et qu'il va réussir à les détourner. Alors ça veut dire que ces gens-là vont permettre à Satan de le faire, au point de vouloir combattre contre le Christ et contre son royaume une fois encore. Donc, ils auront un état d'esprit. Alors, c'est une possibilité. Ils auront un certain état d'esprit à ce moment-là. Laissons les spéculations de côté et demandons-nous, quelle que soit la raison pour laquelle ce message d'âgé a été donné le septième jour de la fête des tabernacles, qu'est-ce que vous et moi pouvons apprendre à partir de ce sermon? Et la réponse la plus simple, c'est ceci. Faites l'œuvre. Accomplissez l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a toujours eu une œuvre pour l'homme à accomplir. Et même à la fin du millénaire, il y aura une œuvre à faire que l'humanité devra faire. Et ça ne se terminera pas là. Il y a des gens qui ont dit « Ah, l'œuvre s'est terminée quand M. Armstrong est décédé. » Il n'y a rien de plus faux. Écoutez, nous voyons des centaines et probablement des milliers d'individus maintenant qui sont venus à l'Église depuis la mort de M. Armstrong. Il y a une œuvre à continuer et à terminer. Même durant le millénium et même à la fin du millénium, il y aura une grande préparation à faire pour cette résurrection du jugement du grand trône blanc. Il y a un passage très intéressant dans Jean 17 et le verset 4. Jean 17 et le verset 4. Le Christ fait une déclaration importante et c'est le Christ qui est notre exemple en toutes choses. Verset 4 de Jean 17. Le Christ dit à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre. » C'est la prière qu'il a adressée à son Père avant d'être arrêté pour être crucifié. Sa dernière prière que l'on voit ici. Et il parle à son Père du fond de son cœur. Et c'est vraiment touchant pour nous. « Je t'ai glorifié sur la terre. » Regardez, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai lu ce passage à un moment donné et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Je me demande si vous voyez de quoi il s'agit. Voici Jésus, il n'est pas encore crucifié, et il dit à son Père, « J'ai accompli, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » La plupart des gens regardent le passage où le Christ dit à son Père lorsqu'il est sur la croix, « Tout est accompli. » Et certains disent, sa mort et son ensevelissement, c'était ça l'œuvre du Christ. Mais Jésus-Christ dit ici, même avant sa crucifixion, il dit, « J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait plus de travail à venir? Non, ce n'était pas la réponse. Il savait ce qui s'en venait. Mais il y avait une certaine mission à accomplir, qu'il devait accomplir durant ces 3 années et demie, particulièrement. Il y avait une mission plus particulière à ce moment-là. Bien sûr, sa mission continue aujourd'hui. Et même ça, ce n'était pas sa mission, c'était la mission que le Père lui avait confiée. Jésus a été fidèle en cela. Allons à Jean, le chapitre 4, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 4. Nous allons lire le verset 31. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange! » Alors, mange, faut que tu manges. Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Verset 33, « Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Et regardez ce que le Christ a répondu, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà ce qui me donne de l'énergie, de la vitalité. C'est ce qui me pousse à me lever le matin avec enthousiasme, avec zèle. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et pourtant, nous venons de lire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, l'œuvre du Père. Après, il dit ceci, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois avant la moisson? » Il leur dit autrement dit, « Ne dites pas que ce n'est pas le temps de bâtir le temple, de faire l'œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Et on voit ça aujourd'hui. Il nous faut être reconnaissants pour ceux qui ont travaillé dans l'œuvre avant nous. Je suis reconnaissant pour tous ces individus qui m'ont aidé dans les années 50 et dans les années 60, par exemple. Ces gens-là qui priaient pour que des jeunes gens soient appelés à l'Église pour accomplir l'œuvre. Ils m'ont aidé lorsque j'ai commencé à assister à l'Église. J'avais 16 ans lorsque j'ai commencé à être intéressé à l'Église. Et j'ai commencé à assister à l'Église pas longtemps après, lorsque j'ai quitté la maison chez moi. Et il y a des gens qui ont pris soin de moi pour m'amener à l'Assemblée. Certaines personnes m'ont aidé sur le plan physique. Certains m'ont aidé à payer les frais de mon éducation au collège ambassadeur parce que j'étais très pauvre. Ça a été le cas pour d'autres étudiants aussi. Tous ces gens-là qui ont payé leur dîme, qui ont soutenu l'œuvre, nous devons leur être reconnaissants parce qu'ils ont permis que nous venions à l'Église. Et maintenant, nous qui sommes entrés dans leur travail, nous devons continuer l'œuvre qu'ils ont accomplie. Et ça va continuer jusqu'à la fin du millénium. Il y aura une œuvre à faire, à terminer. Ça ne sera pas fini maintenant. Ce sera poursuivi jusqu'à la fin du millénium et même au-delà. Dieu veut que ces gens travaillent, qu'ils accomplissent son œuvre, qu'ils terminent son œuvre. Au chapitre 9 de Jean, Jean chapitre 9, le verset 4, Jean 9 et le verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Autrement dit, je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ce sont les œuvres de Dieu et il faut que je travaille, il faut que j'accomplisse ces œuvres-là. Alors, c'est pour ça que dans Jean 17, verset 4, il a dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » C'est de ça qu'il parle. Quelle était l'œuvre que le Christ devait faire? Allons voir dans le livre de Luc, au chapitre 4, Luc, chapitre 4. Luc 4 et le verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais il leur dit, verset 43, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » La bonne nouvelle du royaume de Dieu qui vient bientôt. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Ça faisait partie de l'œuvre qu'il avait à accomplir. Je dois prêcher l'Évangile à d'autres villes. On ne peut pas simplement être satisfait de notre petite région. C'est très facile humainement de devenir intéressé seulement dans ce qui nous touche directement. Mon Église, ma petite congrégation. Lorsque M. Armstrong a quitté l'Oregon pour déménager en Californie, certains individus dans l'Église ont dit « Pourquoi aller là-bas? Il veut paraître bien, il veut être sur la radio, il veut être important. » Oui, certaines personnes ont réagi de cette façon-là à ce moment-là. Tout ce qu'ils voyaient à ce moment-là, c'était leur petit groupe local. Ils étaient tournés vers eux-mêmes. Et je me rappelle, à un moment donné, j'étais pasteur d'un petit groupe de personnes et les gens disaient, on n'a pas besoin de faire partie d'un groupe plus grand ou d'une grande organisation. Nous sommes environ 200 personnes et on est bien ensemble ici. Et c'était suffisant pour eux. Ces gens-là, dans le fond, cherchaient un club social. Mais quand on fait l'œuvre de Dieu, on voit beaucoup plus large que ça. Il y a une perspective tout à fait différente. Dieu ne nous a pas appelés pour faire partie d'un confortable petit club social. Dieu nous a appelés pour faire une œuvre. Et malheureusement, plusieurs personnes, à la fin de l'époque où nous sommes, ont oublié l'œuvre de Dieu. Ils aiment Dieu, en un sens. S'ils aimeraient Dieu vraiment, ils accompliraient sa volonté, mais ils aiment les commandements de Dieu. Ils aiment les autres gens avec qui ils sont dans l'Église. Mais pour ce qui est de faire quelque chose, d'accomplir une œuvre, ce n'est pas dans leur perspective. Ils ne sont pas capables de relier les points pour voir l'image d'ensemble, si vous voulez. C'est triste. Il y a un certain aveuglement qui tombe sur l'Église à la fin de l'époque où nous sommes. Et il ne faut pas que vous et moi, nous laissions ça se produire pour nous. Allons dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Nous voyons une autre dimension de l'appel du Christ et de sa responsabilité. Verset 46, Luc 24. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » C'était ici après sa résurrection. « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, par son autorité, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Alors, il fallait que ça se produise. Il fallait que ça se fasse, que ça s'accomplisse, en commençant par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés devaient être prêchés. Et d'expliquer que c'était grâce à la mort du Christ que les gens pouvaient être pardonnés de leurs péchés, qu'ils pouvaient être appelés et pouvaient se repentir et être baptisés, et ainsi de suite. Et il leur a dit des choses précises. Bien sûr, un peu plus tard, Matthias a pris la place de Judas et a regardé le verset 48. « Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La puissance pour être capable d'accomplir ce travail. Vous êtes mes témoins. Et Dieu a choisi 12 témoins à ce moment-là. Et lorsque un s'est disqualifié, Judas, un autre qui avait été témoin de ces choses, fut choisi pour remplacer Judas, Matthias. Et il pouvait accomplir cette responsabilité. Alors, il avait été témoin du message du Christ, de sa mort, de sa résurrection. Il pouvait annoncer la même chose en tant que témoin. Ces choses-là, le Christ devait les faire. Il devait préparer des individus à faire une œuvre. Il devait bâtir son Église. Il devait établir le fondement de l'Église à ce moment-là. Les apôtres ont continué ce travail et ils l'ont fait fidèlement. Si vous allez dans Acte 5, s'il vous plaît, Acte 5 et le verset 38, Acte 5, verset 38, il est dit ceci. Ici, il est question de Gamaliel. Les apôtres avaient été mis sous arrêt et les apôtres avaient dit « On doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », verset 29. Au verset 32, il est dit « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » C'est ce que les apôtres ont répondu au tribunal qui les questionnait. Et au verset 38, Gamaliel avait empêché les gens de tuer les apôtres. Il a dit à ces gens-là, « Arrêtez, réfléchissez un peu. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre qu'ils font, vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Alors, les apôtres travaillaient, ils étaient à l'œuvre. Ils s'occupaient de la mission que Dieu avait confiée. Il accomplissait la volonté de Jésus que Dieu avait confiée au Christ. Alors, il l'avait transmise à ses disciples. 1 Corinthiens, chapitre 16 et le verset 10. Paul dit ici, « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. » Il fait l'œuvre de Dieu, comme moi je la fais. Timothée travaille et moi aussi je travaille et nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Alors, il dit aux autres membres de l'Église, recevez Timothée, parce que c'est un collaborateur dans l'œuvre de Dieu. Et si vous allez maintenant à Acte chapitre 15 et le verset 38, Acte 15 et le verset 38, Acte 15 et le verset 38, voici la situation où Paul et Barnabas voulaient continuer leur mission précédente Et Barnabas voulait appeler Jean, surnommé Marc, avec eux. Mais Paul a insisté de laisser Marc en arrière. Pourquoi? Verset 38. « Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. » Voyez-vous, ce jeune homme, lorsqu'il y a eu certaines difficultés qui se sont présentées, s'est détourné et est retourné chez lui. À ce moment, Paul était tellement zélé. Dieu peut-être permettait que Paul et Barnabas se séparent à ce moment-là pour accomplir l'œuvre dans deux directions différentes. Ce n'était pas une division dans l'Église, absolument pas. Ils continuaient de collaborer, bien sûr. Nous savons que plus tard, Paul a dit « Envoie-moi Jean-Marc parce qu'il m'est profitable. » Alors, Paul en est arrivé à réaliser que Barnabas avait raison concernant Jean, surnommé Marc. Mais Paul était tellement intense dans l'œuvre de Dieu qu'à ce moment-là, dans sa vie, il ne voulait rien avoir à faire avec quelqu'un qui ne faisait pas l'œuvre de tout son cœur. Peut-être qu'il n'était pas sensible assez. Parfois, on a ce problème-là. On essaie de projeter notre foi sur les autres. Et parce que nous avons cette foi, nous pensons que tous les autres devraient avoir cette foi-là. Bien sûr, on doit s'encourager les uns les autres à faire l'œuvre. Ne mésinterprétez pas ce que je vous dis. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas au même point tous en même temps. Mais il nous faut être zélés pour accomplir l'œuvre de Dieu et mettre de l'avant tous les efforts que nous pouvons. Et il nous faut réaliser que ce qui est arrivé ici avec Marc, c'est qu'ils ont vécu des circonstances très difficiles en Asie mineure à ce moment-là. Dans cette situation-là, Marc n'était pas suffisamment mature pour faire face à la situation, alors il est retourné chez lui. Ici, Paul dit, il n'a pas été avec nous dans l'œuvre, donc laissons-le en arrière. Alors, Barnabas et Paul ont pris chacun leur direction pour ce moment-là. Dans Philippiens, chapitre 2, nous voyons un homme d'une nature tout à fait différente. Philippiens, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 25. Un homme du nom d'Épaphrodite ici. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère, Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. » Et au verset 7, il est dit que cet homme-là a été malade, en effet, et prêt de mourir. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, c'est Paul qui parle, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Verset 29, Philippiens 2. Recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a été près de la mort. Alors, voici un homme qui était tellement zélé qu'il a, pour ainsi dire, brûlé la chandelle par les deux bouts. Pas à faire des fêtes, à pu finir, puis à faire des parties, puis à s'amuser. Non, non. Et ce n'était pas un travail séculier qu'il faisait. Quelqu'un qui est un workaholic, comme on dit, qui néglige sa famille et ses autres responsabilités. Non. On n'a pas tous les détails ici de ce que faisait Épaphrodite, mais il travaillait pour l'œuvre du Christ. Mais à cause de l'œuvre du Christ, il est venu près de la mort. Voyez-vous, il n'a pas considéré sa propre personne même. Alors voilà un homme qui est allé peut-être trop loin, bien sûr, et il nous faut être prudents, qui que nous soyons, parce que nous sommes physiques. Et on ne peut pas briser notre santé en espérant que Dieu va intervenir chaque fois de façon surnaturelle pour nous guérir. Non, bien sûr, Dieu allonge nos vies, Dieu nous guérit, Dieu nous protège. Et parfois, Dieu nous donne la possibilité d'aller au-delà de nos forces normales, mais il ne faut pas exagérer. Il faut garder un équilibre. Alors, voici un exemple de quelqu'un qui voulait vraiment de tout cœur accomplir l'œuvre du Christ. On peut se poser une question ici. À quel point est-ce que je veux faire l'œuvre de Dieu? Si le Christ est en vous, alors vous allez vouloir faire son œuvre. Le Christ veut faire l'œuvre de son Père. Ça lui a été délégué comme responsabilité et le Christ vous l'a délégué si le Christ vit en vous et en moi. Si c'est le cas, le Christ va faire une œuvre à travers vous, pas seulement pour vous. Plusieurs personnes pensent qu'ils ont été appelés pour être sauvés. Bien sûr, chacun de nous ici, et vous qui entendez ma voix, qui célébrez la fête, nous désirons être sauvés. Je veux le salut. Je veux être dans le royaume de Dieu. Mais est-ce que c'est la raison première pour laquelle Dieu m'a appelé et pour laquelle il vous a appelé, vous, à ce moment-ci? Est-ce que c'est simplement pour notre salut? Examinez ceci, réfléchissez un instant. Dieu n'appelle pas tout le monde maintenant, vous savez. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, personne ne peut venir au Christ à moins que le Père ne l'attire. Matthieu 13 et le verset 10, les apôtres sont allés voir le Christ et lui ont dit, « Pourquoi est-ce que tu parles en parabole? » Il leur a dit, « Pour cacher la signification des paraboles aux gens qui sont autour, parce qu'il a été donné à vous de comprendre, mais pas à eux. » Alors, le Christ parlait en parabole aux gens pour qu'ils ne comprennent pas. C'est donné seulement à ceux qui sont appelés. Si c'est le cas, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Si Dieu n'appelle pas tout le monde maintenant, pourquoi est-ce qu'il appelle des gens? Je répète la question pour être certain. Si Dieu n'appelle pas tout le monde maintenant, pourquoi est-ce qu'il en appelle quelques-uns? Pourquoi est-ce que Dieu vous appelle? Et pourquoi est-ce qu'il m'appelle? Quel est le but de son appel? Pourquoi est-ce que Dieu a appelé Noé? Pourquoi est-ce qu'il a appelé Abraham? Pour quelle raison a-t-il appelé Moïse et les autres prophètes? Si vous y pensez, chacun d'entre eux a eu un travail à faire. Il avait une œuvre à accomplir. Ils ont été appelés pour accomplir une œuvre. Et vous et moi, nous avons été appelés pour accomplir une œuvre. Ça ne veut pas dire que nous ne serons pas sauvés si nous faisons l'œuvre de Dieu. Absolument pas. Nous ne serons pas sauvés si nous n'accomplissons pas le but de notre appel, bien sûr. Alors, repensons à la fin du millénaire. Il y aura un message, même pour ceux qui seront à la fin du millénium. Et ce message, c'est « Faites l'œuvre de Dieu ». Et c'est le message qu'AG a livré le 21e jour du 7e mois, en 520 avant le Christ, le 7e jour de la fête des tabernacles. Alors, il y a une œuvre à faire à la fin de cette époque, là où nous sommes. Dans Matthieu, chapitre 24 et le verset 14, il est dit, « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » À toutes les nations. Pas dans un sens général, mais à toutes les nations. Il nous faut aller dans le monde entier. Alors viendra la fin. Il faut qu'il y ait sur la terre un groupe de gens qui vont réaliser la responsabilité de prêcher l'Évangile à toutes les nations avant que la fin vienne. Le message d'Ézéchiel, le message d'avertissement, le message de la sentinelle qu'on voit dans Ézéchiel chapitre 33, il est pour nous aujourd'hui. Ézéchiel n'a pas pu livrer ce message à Israël qui était déjà en captivité. Ce message s'adressait et s'adresse à des gens parvenus au temps de la fin, à nous. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est un message tout à fait différent. C'est facile pour nous de dire, « Ah, le message de Jésus a été répandu dans le monde entier. » Et on peut se laisser aller à penser que tout le monde sur la terre a entendu parler du Christ, de sa mort, de sa résurrection. Mais d'accord, c'est une partie de l'Évangile, mais ce n'est pas tout l'Évangile. Il nous faut nous rappeler que Jésus-Christ a prêché l'Évangile longtemps avant qu'il meure et qu'il soit ressuscité. Et sans sa mort et sa résurrection, il n'y a aucune voie d'accès à la famille de Dieu, au royaume, et il n'y a pas moyen que nos fautes soient effacées. Et il n'y aurait pas de royaume si le Christ ne serait pas ressuscité. Ça fait partie de l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile total. L'Évangile comprend aussi la bonne nouvelle du merveilleux monde à venir. Nous avons une brochure qui s'appelle « Do you believe the true gospel? » C'est une brochure que nous avons seulement en anglais pour l'instant. Alors, le message du Christ, ça comprend bien sûr sa mort, sa résurrection, mais ça comprend aussi l'annonce de la bonne nouvelle du merveilleux monde à venir et de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Combien de gens sur la terre comprennent ce que ce message signifie? Très peu. Et parmi ceux qui comprennent ce message-là, trop nombreux sont ceux qui sont satisfaits d'être dans un petit groupe, d'être confortables avec leur petit groupe, mais qui ne sont pas actifs pour supporter la prédication de l'Évangile et pour supporter l'œuvre. On voit dans Apocalypse, chapitre 3, qu'il y a au temps de la fin deux groupes tout à fait différents. Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. C'est cité à partir d'Ésaïe 22, verset 22. Ça parle du gouvernement. Ça ne parle pas de l'identité d'Israël ici. David savait qui était Israël. Ici, ça parle de gouvernement. La clé de David, c'est le gouvernement de Dieu. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors, ça parle d'une porte ouverte pour prêcher l'Évangile. Le fait que c'est mentionné là, ça veut dire que ces gens-là auraient une porte spéciale ouverte devant eux pour prêcher l'Évangile. Une œuvre qui n'aura été jamais faite dans l'histoire de l'humanité. M. Armstrong a commencé avec la radio, puis il est allé à la télévision, puis il a utilisé la presse écrite. Puis, il a voyagé à travers le monde pour rencontrer les chefs d'État. Nous avons publié des documents à une échelle jamais vue auparavant. 8 millions de revues par mois. Et maintenant, nous avons Internet. Nous avons aussi, bien sûr, iPod, Twitter, Facebook, toutes ces choses-là, et tous ces moyens d'annoncer l'Évangile. Et nous pouvons accomplir une grande œuvre. Dieu nous bénit de cette façon-là. Alors, l'Église de Philadelphie, ceux qui ont l'attitude philadelphienne, font l'œuvre de Dieu et Dieu va les protéger au temps de la fin. Mais quand on arrive à Laodicée, c'est une autre histoire, verset 14, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et il dit ça au peuple de Dieu, à ceux qui ont son Saint-Esprit, mais qui ne travaillent pas avec. J'aimerais vous citer ici certains passages d'un livre écrit par le professeur William Ramsey, un volume écrit en 1906, qui s'appelle en anglais « The Letters to the Seven Churches »,« Les lettres aux sept églises ». Ça a été écrit longtemps avant que M. Armstrong entre en scène. Ça a été écrit il y a plus de 100 ans. Dans ce livre, M. Ramsey fait une comparaison entre la ville à laquelle cette lettre était adressée et l'Église qui était l'Église de Dieu qui était dans chacune de ces villes. Alors ici, page 391-392, je cite, « La ville de Philadelphie fut fondée d'abord pour consolider, régulariser et éduquer la région centrale qui était sous l'influence des rois pergamiens. » Et voici ce qui caractérisait la ville de Philadelphie. C'était une cité missionnaire depuis le tout début, fondée afin de promouvoir une certaine unité d'esprit. Voyez-vous, une unité d'esprit, de coutume et de loyauté grâce aux apôtres de l'hellénisme ou de la culture grecque en terre orientale. Cette ville a réussi dans l'accomplissement de sa mission. Alors, la ville de Philadelphie, à ce moment-là, a apporté la culture grecque à cette terre de Phrygie. Ils étaient unis dans leur travail et ils ont réussi dans leur travail. Les pages 405 et 406 parlent de l'Église elle-même. Philadelphie représentait la porte d'entrée donnant accès au plateau, et la porte avait été ouverte en permanence devant l'Église. L'œuvre de Philadelphie consistait à utiliser cette porte ouverte et à répandre l'Évangile dans les villes des territoires de la Phrygie. Il n'est pas dit explicitement que Philadelphie a saisi cette occasion qui lui était offerte, mais le contexte l'indique clairement. La porte avait été ouverte devant l'Église de Philadelphie par celui qui ne fait rien en vain. Il l'a fait parce que cette ouverture allait être utilisée. Le Christ a ouvert la porte devant ce groupe de gens parce qu'il savait qu'ils allaient l'utiliser. Il serait faux de prétendre que Philadelphie était la seule ville à avoir une porte ouverte devant elle. Chacune des sept cités était située à la porte d'un district ou d'une région, et chacune des sept églises décrites dans Apocalypse avait la possibilité d'agir, et toutes les églises ont eu des occasions particulières dues à leur position géographique et à leurs moyens de communication. Philadelphie a eu la prééminence parmi les sept villes en tant que cité missionnaire. Alors, Philadelphie a réalisé des choses qu'aucune des autres églises n'a réalisées. Voyons maintenant, en contraste, Laodicée, la ville de Laodicée, page 415, et je cite, « Située vis-à-vis deux voies d'entrée en provenance de l'ouest en direction de la Phrygie, Laodicée avait été établie avec la responsabilité, tout comme Philadelphie, de répandre la civilisation et la langue grecque en terre barbare de Phrygie, et plus tard s'étant vu confier la tâche de répandre le christianisme dans cette même région. » Toutefois, Laodicée a très peu progressé dans sa mission de répandre la civilisation grecque dans la Phrygie. Pourquoi Laodicée a-t-elle échoué là où Philadelphie a réussi dans la tâche de répandre la langue grecque dans la région? Nous n'avons aucun moyen de l'évaluer, mais ce fut bien le cas. Pourquoi une a réussi et l'autre non? Nous ne savons pas tous les détails, mais nous savons que ça a été le cas. À la page 422, il parle non seulement de la ville de Laodicée, mais de l'Église elle-même. Et je cite, « Aucune autre des sept villes n'est plus difficile à décrire en ce qui a trait à son esprit et à sa nature que Laodicée. Elle n'est identifiée à aucune caractéristique marquante, extrême ou spéciale. C'est dans cette sorte de centrisme d'équilibre moyen ou de milieu que peut se définir son caractère particulier. Ce sont ces mêmes qualités qui en ont fait une ville qui a réussi sur le plan financier, une cité de banquiers et de financiers. Elle pouvait s'adapter aux besoins et désirs des autres. Toujours flexible, malléable, accommodante, animée par un esprit de compromis. » En fait, William Ramsay appelle Philadelphie l'Église missionnaire et Laodicée l'Église des compromis ou la ville des compromis. Continuons et voyons quelques extraits de la page 424 à 426. L'Église de Laodicée n'est ni d'un côté ni de l'autre. Elle est ouverte aux compromis. Elle ne peut rejeter totalement les tentations et les attraits du monde. C'est pourquoi elle sera rejetée totalement et inexorablement par celui dont la fidélité et la vérité rejettent tout compromis et toute demi-mesure. L'une des raisons de son apparente prééminence, c'est sa grande capacité d'adaptation. Elle est capable de s'adapter aux besoins des autres parce qu'elle n'est pas vraiment animée d'un caractère qui lui est propre. Laodicée a dû lui paraître, à l'apôtre Jean, comme indécise, incapable de prendre des initiatives, malléable, irrésolue, laissant à désirer. Concernant l'attitude de compromission de Laodicée, Jean y a sans doute vu une tendance à la tolérance et aux concessions, ce qui peut sembler démontrer un certain sens pratique, sens commun ou bon sens chez cette population composée d'un certain mélange réparti de façon assez équilibrée. Les caractéristiques qui faisaient de Laodicée une ville bien ordonnée, énergique, un centre de commerce actif, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'énergie à Laodicée, c'était la façon de laquelle c'était utilisé. Ces caractéristiques ont semblé à l'apôtre Jean révéler plutôt une nature froide, fatale au caractère humain, manquant de l'esprit de sacrifice et d'enthousiasme. C'est ce qui manquait, un esprit de sacrifice et d'enthousiasme. Un peu plus loin, il émet ce commentaire très intéressant. En parlant du district de Laodicée, en plus de la ville, un incident s'est produit. Un événement majeur est arrivé et que Ramsey a voulu souligner à cause de son importance. Il dit ceci. Il dit qu'il y a deux autres individus qui ont relaté ça dans l'histoire, et je cite, « Dans cette ville, les gens de la ville et les magistrats étaient chrétiens au début du IVe siècle. Durant la dernière grande persécution qui eut lieu de l'an 303 à 313, la population fut menacée parce que l'Église était considérée comme défiant l'ordre impérial. Ils furent encerclés par un groupe de soldats. On leur offrit alors le choix habituel, se soumettre ou mourir. » Dans des circonstances ordinaires, la plupart de ces gens n'auraient pas eu le courage de choisir la mort. Mais, à cause de la nature humaine, la pression d'une foule exerce une puissante influence sur les individus qui la composent. Pris individuellement, certains auraient pu sans doute accepter ce compromis. Mais ces gens, inspirés par le courage de tout le groupe, furent tous brûlés avec leur Église. Et ils moururent en s'en remettant au Dieu suprême. Ça donne à réfléchir. Ça donne froid dans le dos. Ça décrit peut-être ce que nous allons voir dans l'avenir. Nous savons que Laodicée passera par la grande détresse. Et ceux qui sont enclins à suivre leurs amis, leurs activités, plutôt que de s'occuper de l'œuvre et s'occuper de changer, peut-être que ce sera leur lot. Et ce sont les gens de Dieu. Et ils seront les témoins de Dieu à ce moment-là. Il faut qu'il y ait un groupe comme ça. Dieu l'annonce dans sa Bible. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas avoir ces attitudes-là. Nous devons être des Philadelphiens. Parce que ce n'est pas trop intéressant de voir ce qui vient pour les Laodicéens. Allons plus loin ici, en approchant de la conclusion. Il y a plusieurs façons de faire l'œuvre de Dieu, vous savez. Et c'est formidable de voir comment les gens s'impliquent dans l'œuvre. Au bureau à Toronto, plusieurs personnes viennent gracieusement aider de toutes sortes de façons. Certains voyagent beaucoup pour venir au bureau, demeurent loin du bureau, mais parfois ça peut devenir même ennuyant de mettre des livrets dans les enveloppes, 100 livrets, 200 livrets, 1000 livrets durant la semaine. Mais ils font l'œuvre de Dieu et ils le font de bon cœur. Certaines dames amènent de la nourriture à l'assemblée de sabbat pour que les gens puissent fraterniser après. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu aussi, parce que ça nourrit le peuple de Dieu, pas seulement sur le plan spirituel. Il y a ceux aussi qui préparent les salles d'assemblée, qui nettoient la salle, qui disposent les chaises, qui préparent l'assemblée de sabbat. C'est ça aussi, faire l'œuvre de Dieu. Aller vers les nouvelles personnes qui arrivent à l'Église, c'est ça, faire l'œuvre aussi. Vaincre notre gêne et aller vers les nouvelles personnes. Envoyer des cartes aux gens, visiter les malades, appeler ceux qui ont besoin d'encouragement. Envoyer nos dîmes et des généreuses offrandes, c'est ça aussi faire l'œuvre de Dieu. Et prier pour cette œuvre, ça aussi c'est faire l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont cyniques, qui disent « Ah, c'est simplement prier et payer. » Ces gens-là qui pensent ainsi ou qui ont cette attitude-là n'ont aucune idée quel esprit les inspire. Parce que c'est un honneur considérable pour chacun d'entre nous de payer nos dîmes, de donner des offrandes et de nous mettre à genoux et de supplier notre Créateur d'accomplir son œuvre et de nous donner ce qu'il faut pour le faire et de nous efforcer de travailler de façon unie, comme la ville de Philadelphie l'était dans les temps anciens. Nous devons travailler ensemble comme une équipe. Nous devons inviter des gens chez nous après l'assemblée pour un café ou un petit repas ou un goûter, tout simplement. Que ce soit simplement des fèves ou quelques rôtis ou quoi que ce soit. Ça fait partie de faire l'œuvre. Travailler ensemble, supporter M. Meredith, M. Haim et les autres présentateurs de nos émissions, M. Smith, M. King, supporter ces gens-là dans nos prières et dans nos dîmes, c'est ça faire l'œuvre de Dieu aussi. Dieu va nous récompenser selon nos œuvres. On voit ça dans Apocalypse 22, verset 12. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il est dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Absolument pas. Nous allons récolter ce que nous avons semé, la vie éternelle, avec toutes les bénédictions qui vont avec Romains 9, et le verset 28. « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et Dieu est en train de le faire et Dieu est en train de le terminer. Quand nous allons regarder en arrière, nous allons nous rendre compte que ça a été une œuvre très rapide. Dans Colossiens 1, et je termine avec ça, verset 10, « Marchons d'une manière digne du Seigneur et soyons-lui entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. »